Bonjour et bienvenue dans l'émission de Télémie Vache sur Radio Vassivière. Et bien maintenant, le rendez-vous est pris. Nous vous retrouvons tous les deux mois pour vous proposer de découvrir le nouveau magazine du plateau et défricher un peu plus sa thématique. Alors cette fois-ci, nous allons à la rencontre des habitants de Bessa pour un gros plan. Alors qu'est-ce qu'un gros plan ? C'est qu'une fois par an, Télémie Vache consacre un de ses magazines à une commune du plateau. L'année dernière, nous avions été à la découverte du village de Chavanac, en Corrèze. Aujourd'hui, donc, c'est la direction Bessa, en Creuse, une commune de 30 habitants jouxtant le camp militaire de la Courtine. Ce dernier magazine s'intitule Bessa, portrait au bord du périph. On y découvre la vie quotidienne du village, avec Marie-Rose, la doyenne, ou Jean-Marie, qui est éleveur. Il y a ceux qui sont revenus, comme Jojo, ou Pierrick, qui est venu en aide à sa maman Pascale, ou Sander et Marie-Jo, qui eux sont arrivés pour y retaper une maison. Tout d'abord, nous allons écouter des extraits du magazine. Et puis ensuite, faute de pouvoir faire rentrer l'ensemble des habitants de Bessa dans les studios de Radio Vassivière, ce qui aurait été un bel exploit. Alors pour cette émission, nous avons emmené les micros à l'avant-première du magazine, le 8 février dernier, dans la salle de la mairie de Bessa, qui était à son comble, avec le village tout entier, quelques habitants de la Courtine et de Madia l'Étrange. Comme vous allez l'entendre, pas mal de réactions, surtout tournées vers leurs voisins, les militaires. Eh bien, bonne écoute et à tout à l'heure.
Il n'y a jamais eu grand-chose à Bessa. Hein. Enfin, je ne voudrais pas contrarier Monsieur le maire, mais... Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait l'école, une école unique, une église. Il n'y avait pas de curé, déjà, quand j'ai connu, moi. Puis, un ou deux cafés. Il devait y avoir deux cafés, je pense. Un petit bureau de tabac. Mais si les gens voulaient un morceau de viande, voulaient acheter des timbres, voulaient faire partir une lettre, ben ils allaient à Mania.
Enfin, en tous les cas, moi je suis là, mais je me trouve très bien ici. C'est ça, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard, mais moi j'aime être ici. C'est vrai, c'est... Ce qui est dommage, j'ai pas assez de jeunes pour prendre la relève. Et ça, manque de travail. Parce que tous les jeunes qui sont là, je vois mon petit-neveu Jérémy, mais c'est pareil, il a repris la ferme de ses parents. Hein. Mm. Et pourtant, il a fait des drôles d'études. Hein.
Oui.
Mais il a repris la ferme. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas envie d'aller nulle part non plus. Hein. Quand on a été élevé à la campagne, jusqu'à un âge de travailler, on n'a plus envie de partir autre part.
En 1904, quand ils ont défini le camp, les bornes du camp, et le géomètre qui a décidé où mettre les bornes, il habitait à Murat. Donc le camp est arrivé comme ça, là il y a Murat, il a dit « Ok, on va autour de ma maison ». Et voilà, comme ça, je peux rester chez moi. Et c'est pour ça que Murat est tellement dans le camp. C'est un peu presque des fois entouré par le camp. Mm-hmm. Pas tout à fait, mais c'est un point dans le camp comme ça.
Oui.
Des fois, c'est pénible parce que ça peut tirer tellement fort que ça fait mal aux oreilles.
On ne peut plus parler. Hein.
Oui. Mm. Ouais, des fois, ça bloque la conversation. Et le plancher bouge, les fenêtres, la fenêtre tremble. Et c'est un désavantage, mais je savais avant d'acheter le lieu que c'était une concession à faire. Et parce qu'il y avait tellement d'avantages, je voulais quand même l'acheter. Et dans la vie quotidienne, ça va, mais les plus grands tirs, c'est quand même fort pénible. Ouais.
On est habitué aussi un peu.
Ouais.
Oui, tiens, on a un micro, si vous voulez.
Voilà. Ben, je trouve que c'est une très bonne réalisation. C'est une très bonne réalisation parce qu'on voit un petit peu le côté rural de la chose, parce qu'on nous parle tellement du milieu citadin, des problèmes dans nos cités, dans nos villes, et ça fait plaisir un petit peu de voir la vie dans notre monde rural où les gens sont tellement naturels, qui sont si proches de la nature, qui savent la respecter. Il en ressort aussi de ce reportage ce conflit récurrent entre l'armée et la population. C'est vrai que ce camp, il existe depuis longtemps, qu'il a apporté sur le plan économique depuis de nombreuses années, et qu'actuellement, oui, depuis les dernières modifications de l'occupation du camp, qui est beaucoup moins concentré donc sur la vie économique, mais surtout sur les manœuvres, je pense que Philippe me contredira pas, il y a peut-être un dialogue à développer par rapport à ces représentants, donc maintenant qui est le 126e RI, et puis les élus du canton. C'est important de garder la structure du camp, mais c'est aussi important que tout le monde travaille en relation pour améliorer un petit peu tout ça, parce que je crois que tout le monde est utile dans ce secteur, y compris le camp. C'est vrai que, bon, on aimerait mieux voir maintenant un camp de la paix qu'un camp pour la guerre. Malheureusement, en voyant tout ce qui se passe un petit peu chez nous et à l'extérieur, ils sont indispensables. Donc je crois que c'est des choses à développer. Et peut-être que pour vous, Télé 1000 Vaches, à voir un petit peu sur le secteur, à continuer à développer votre action, à faire connaître un petit peu tout ça auprès des élus, mais pas seulement de nos élus du coin, mais des élus un petit peu plus citadins, puisque maintenant on va avoir une grande région, hein, la région Aquitaine-Poitou-Limousin, et que ces gens-là, ils soient un petit peu plus conscients donc des problèmes en milieu rural, et puis de venir vers nous, comme nous on souhaite aller vers eux aussi, également. Le dialogue, c'est ce qui est le plus important entre tous, voilà.
Merci. Si, parce que sinon...
Vous avez besoin de micro. Ouais. J'ai vu ça, pourquoi vous avez choisi cette chanson à la fin ? Besame mucho qui ?
D'espanophile ?
Non, pas vraiment de réponse, c'était pour le jeu de mots. Loin de moi cette intention.
Bon, c'est juste un jeu de mots, quoi. À part que c'est une belle chanson et que ça, une petite chanson d'amour après un magazine qui parle de l'amour du territoire, ça collait bien.
Je pensais que vous vouliez rendre compatible avec votre chanson les militaires et le tourisme féminin, bien sûr.
Ce qui est dommage, c'est que ça a été filmé en hiver, et je pense que Bessa vu d'été, c'est une autre image. Par contre, pour montrer le sujet, c'est vrai que c'est lugubre, l'armée, triste, tout ce qu'on veut. Donc c'est deux mots, courage, fuyon, là. Donc ça, c'est une cassette qu'il faut voir en tant que problème, mais pas en tant que découverte touristique ou de la région. C'est un petit côté négatif, mais ça, c'est pas de votre faute, hein, c'est la saison. Il y a un côté noir par les images, dû au temps, mais c'est vrai que vous venez ici au mois de juin, juillet, c'est verdoyant, c'est un côté sympa, quoi. Ou même l'automne, jusqu'à l'automne. C'est vrai que là, c'est la mauvaise saison.
Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ça soit pas positif. Il y a quand même une belle organisation de vie. Les gens, on sent qu'ils aiment être à Bessa. Enfin, voilà, vous dites que vous aimez être ici, et je vois plein de luttes en fait. Enfin, je vois des gens qui essayent de. Enfin voilà, je vous vois en train de vivre ici et d'essayer de maintenir cette vie. Et donc c'est pas pour moi, enfin c'est absolument pas négatif. C'est pas le vœu de Télé 1000 Vaches, on n'essaye pas de faire de la promotion. Enfin, du coup, soyons assez clairs. Et si on regarde le dernier gros plan, pareil sur Chavanac où il y a 40 habitants aussi, on est également en hiver et on retrouve en fait ces mêmes problématiques. Mais à mon sens, du coup, ça valorise malgré tout la vie en fait en milieu rural. Oui, c'est la vie de tous les jours, tout à fait, tout à fait.
Je ne suis pas de Bessa, hein, je suis de la Courtine, la grande ville. Non, mais je trouve que les gens, ils sont un petit peu stressés parce qu'il y a la caméra, on le sent.
Oui,
mais je trouve qu'ils sont naturels et qu'ils sont amoureux de leur territoire. Et c'est ça qui est beau.
Voilà.
J'aimerais bien faire un petit sondage pour revenir au camp. Entre les avantages d'avoir un camp militaire à côté, les inconvénients parmi vous, qui serait favorable à ce que le camp ferme ? Vous êtes une minorité. Et donc les autres, ça veut dire que vous êtes favorable à ce que le camp reste ouvert ou vous êtes qui serait favorable à ce que le camp reste ouvert ?
Donc, que le camp ferme, mais que oui, qu'il n'y ait plus de militaires. Oui, c'est exactement ça, oui. Pour qu'il y ait un vrai projet touristique possible. Il y a une totale incompatibilité pour tout développement touristique ici. C'est tout. Donc ça veut dire que si on veut faire du tourisme un tout petit peu dans ces pays-là, ça veut dire qu'il faut que les militaires s'en aillent, c'est tout.
Moi, mon avis, personnellement, ça peut fermer, hein. Ça fera du terrain agricole de plus. Moi, j'en prends 100 hectares de plus au-dessus de chez moi. J'y défriche. C'est impeccable. Ça m'arrange bien.
Tout le monde serait ravi. Hein.
Non, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que vous avez gagné ? La question n'est pas si le camp ferme ou si elle ne ferme pas. C'est que le camp respecte un petit peu mieux les gens aussi. Hein. Ils sont devenus un point, lors de leur discussion, on les a de temps en temps. On sent qu'ils sont sur le petit nuage, ils sont au-dessus de tout le monde depuis quelque temps. Et ça va pas. Et bien sûr, je comprends qu'ils ne respectent rien du tout. En ayant ce raisonnement-là, ils peuvent. Non, on ne peut rien respecter. Bon, après, le camp, bien sûr, on va dire que le camp, il est porteur d'emploi. Il y a encore quelques emplois au camp. Ah, si, il y a quelques personnes qui travaillent encore au camp. Non, 60. Mais la vraie question, c'est pas de fermer ou de pas fermer, je pense.
Moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que ces gens-là se permettent de nous virer du camp quand bon leur semble, mais ils se gênent pas du tout pour envahir les régions, les villages, et même faire prendre des risques certaines fois aux gens. Je vais vous expliquer quand même un petit truc qui m'est arrivé une fois à Malraye, là-haut. C'est que je fais des compétitions cyclistes, donc j'étais parti à l'entraînement. Ils n'étaient pas du tout dans le camp. Ils n'étaient pas deux, trois, ils étaient au moins une cinquantaine. Ils étaient en train de faire des combats au milieu de la route. Ils avaient pour mission de menotter un mec au milieu de la route. Je suis arrivé en vélo, ils m'ont arrêté. Je ne me suis pas arrêté. Mais ils me poursuivaient, style, arrête-toi. Bon, c'est pas normal. Hein, le camp, c'est le camp. Mais en dehors du camp, je crois que les gens, ils doivent pouvoir vivre sans être emmerdés toutes les 5 minutes par les militaires. Et je pense que je ne suis pas le seul à dire que les militaires sortent du camp et font des manœuvres dans les villages, et ça, c'est pas normal. Voilà, je pense qu'ils ont suffisamment de superficie dans le camp pour laisser les gens vivre leur vie. Et puis, d'autre part, pour revenir sur le truc de votre film... Pour revenir sur le truc de votre film, moi je trouve personnellement que c'est très très bien fait, parce qu'on n'est pas sur la Côte d'Azur, ça représente la région vraiment telle qu'elle est, et je trouve ça très bien. Je vous dis chapeau parce que le film est très très bien fait. Voilà.
Quand j'ai posé la question, la plupart des gens n'ont pas levé la main en fait. Donc la plupart d'entre vous, vous êtes ni pour la fermeture, ni pour l'ouverture. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas levé la main veut m'expliquer ça ? Pourquoi il n'a pas répondu à la question ? Ou pourquoi il s'abstient ?
Parce que c'est l'épée à double tranchant, parce que aussi le camp, ça pourrait nous garder des commerces ouverts et puis des emplois pour les ouvriers civils. Voilà. Moi, j'ai pas connu, mais il y a eu, il paraît, plus de 100 bistrots à la Courtine, de bars, de restaurants, d'hôtels, etc., etc. Si. Dans les années 50-60, il y avait 120 bistrots. Vous voyez, je suis même loin du camp. 120 bistrots pour 800 habitants à peu près. Mais ce n'était pas une armée de métier, c'était du volontariat. C'était des appelés qui venaient, qui restaient 3 semaines, et que leur peu de soldes qu'ils avaient, qui dépensaient dans les commerces. Maintenant, c'est une armée de métier qui viennent pour une mission telle que, qui ne sortent pas et qui repartent. Voilà.
Il faut quand même dire que, bon, moi, personnellement, je ne suis pas pour qu'ils s'en aillent, parce que la Courtine, c'est quand même une ville qui vit uniquement avec eux, et s'ils n'ont pas les militaires, ils sont très mal barrés, quoi. Ben, moi, je pense, on va au marchand de journaux. Le marchand de journaux vit quand même beaucoup avec les militaires. La pharmacie, il y a les militaires. Les débits de boissons, les militaires, ils achètent quand même. Je pense qu'ils aident quand même. C'est mon idée personnelle. Mais que la courtine vit quand même un petit peu avec les militaires, même beaucoup. Et s'il n'y a plus les militaires, voilà, sans être pour ni contre, il faut quand même penser aussi à l'ensemble des gens. Hein. C'est pas seulement voir son petit truc personnel. Et...
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité.
La route départementale.
C'est-à-dire ?
Bah à 17h, ils ferment à 8h le matin et pour faire les tirs, et après à 17h, ils ouvrent la route départementale. Donc là, on va pouvoir passer par rentrer par la départementale 25 qui traverse le camp de la courtine. Alors là, on a de la chance aujourd'hui, c'est ouvert avant 17h. Parce que des fois, normalement, c'est 17h, mais des fois, c'est 17h30, voire 18h. Voire des fois ils oublient même d'ouvrir carrément la barrière. Alors Si c'est fermé, soit on prend la route qui fait le tour du camp militaire, la route militaire, le périph, ou alors on prend par une autre départementale qui traverse aussi le camp, mais que celle-là, ils la ferment que de temps en temps quand ils font vraiment des gros tirs. Sinon, on fait le tour, on est obligé. De la maison, en passant par ici pour aller au travail, j'ai 10 km 500. Et si je passe par l'autre côté, j'ai pas le double, mais il y a bien au moins 6-7 km en plus. Donc tous les jours, sur toute l'année, ça fait beaucoup de kilomètres. Donc c'est pour ça qu'on veut essayer de garder les routes le plus longtemps possible.
Oui, je voulais dire, moi, j'ai connu justement le camp il y a 40 ans. Avec Gérard, on allait garder les vaches. Tout le monde exploitait ou du bois, allait faucher des fougères, faire la litière. Le camp était ouvert aux civils. Maintenant, du jour au lendemain, il ne faut plus de civils, c'est dangereux. On connaît bien les zones de tir. Ils veulent nous foutre dehors. Les champignons, c'est pareil, ils nous font la guerre, il faut aller se présenter à la gendarmerie. Mais avec Jean-Loup, là, justement, ceux qui viennent en résidence secondaire à Paris, on a dit que le jour où vraiment ils nous faisaient chier, on allait monter un comité de défense des riverains du camp, parce qu'on veut avoir les inconvénients, mais il faut aussi laisser vivre les gens avec ce camp. C'est un handicap, on vit avec notre handicap, mais il ne faut pas non plus aller pousser trop loin. Oui, mais je pense qu'on fait partie, Magna et Bessa et Malré, les trois communes les plus touchées. Cléraveau, ils s'en foutent, c'est ouvert sur Feltin, la grande route, la Courtine. Le Manartichon à côté de la Courtine, et la Courtine n'est pas touchée par le camp. Il a eu tous les avantages, aucun inconvénient en proportion.
Oui, le village de combat, il est pratiquement au Puy-Chevrol, et je peux vous dire que les gens du Puy-Chevrol, c'est un petit peu comme c'est comme Murat, ça c'est catastrophique, ça. Et au village de combat, ils y sont tout le temps. Et les gens du Puy-Chevrol, bon, ils sont peut-être pas nombreux, mais...
Oui, il y a des gens, bon, la région leur plaît, et malheureusement, ça les arrête, parce que le camp amène ses nuisances. Moi, j'avais une maison avant, justement, il y a des gens qui sont venus. Ils entendaient tirer, ils disaient non, ça les a arrêtés, ils ne sont pas venus.
Plusieurs fois, j'ai été pris dans le camp aux champignons avec mon véhicule à pied autre chose. On m'a demandé de me présenter à la gendarmerie. Alors j'ai dit, bien sûr, j'étais aux champignons. J'étais un dimanche soir où j'étais après les tirs. J'étais pas sur une zone de manœuvre. Je dis, le camp, je le connais. J'ai dit, on a tous les inconvénients. Vous nous emmerdez parce qu'on va aux champignons dans le camp. Ça vous appartient pas plus. C'est un territoire national. J'ai dit, le jour où on m'emmerde comme ça, j'ai dit, on montera un comité de défense. Parce que là, la pression. Et jusqu'à présent, on me dit rien. Le jour où ils veulent me foutre un PV ou autre chose, je le monte, le machin. C'est tout. Voilà. Après, moi, c'est peut-être hypocrite, mais j'ai dit, tant qu'on...
L'histoire des routes, finalement, est-ce que c'est pas...
C'est la goutte qui fera déborder le vase.
Oui, mais du coup, justement, est-ce que c'est pas là, sur ce terrain-là, que vous pouvez constituer ce comité ? Et en plus, rajouter, justement, effectivement...
Ça fait partie des handicaps supplémentaires. Mais il y en a déjà nombreux. Il y a le bruit, il y a le visuel, il y a le cloisonnement, l'isolement. Et en plus, un double isolement avec ces routes. Parce que bon, ils veulent pas reconnaître que... Oh, ben, vous n'avez qu'à prendre le périph. C'est sûr qu'on a fait le calcul l'autre fois. Quelqu'un qui va 5 fois à la Courtine par semaine, et il fait pratiquement 20 km de plus par jour... Sur 5 jours, ça fait 100 bornes. Sur 45 semaines, ça fait 4500 bornes, sachant que c'est à combien ? 50 centimes du kilomètre ou 35 centimes
Plutôt 50 centimes.
Non, mais voilà, c'est un coup. Après, c'est le côté handicap, parce que le périph' n'est pas toujours... Là, au mois de décembre, il était fermé. Là, il y a des périodes de gel et de verglas. Il est plus dangereux que la départementale, parce qu'il y a des toboggans, il est mal conçu. Maintenant, c'est vrai que le camp, on savait qu'il était là. Le problème, c'est qu'avant, on était plus ou moins impliqués dans le camp. Maintenant, ils veulent en faire une zone no man's land et qu'on n'acceptera pas, c'est tout.
J'ai cru comprendre en voyant ce qui a été filmé, puisque je n'étais pas au tournage, que les relations et notamment la façon dont se comporte, on va dire, la direction du camp a changé dans les années... récente ou pas si récente, est-ce que c'est Enfin, de quelle façon ça...
Ben, il faudrait demander ça aux élus, notamment monsieur le maire. Parce que c'est vrai que toi, tu l'as constaté parce que tu es plus fréquemment avec eux.
Oui, ça a réellement changé. C'est depuis qu'au camp, il n'y a plus de colonel. C'est le colonel du 126 de Brive qui commande le camp. Et cet homme-là, en plus, celui-ci qui est en place à l'heure actuelle, c'est un homme de terrain. Alors, il fait sa petite guéguerre au Mali, là. Et le camp, ben, on trouve... Il n'y a personne pour s'occuper un peu des affaires du camp. On a vu que dernièrement, on avait reçu quelques documents qui étaient signés par un capitaine, et ce capitaine n'avait pas la signature. Alors, ben, là, on est bien barré. Hein. Oui, depuis quelque temps, ça s'est bien, bien dégradé. Et ça correspond à peu près du fait, depuis qu'il n'y a plus de colonel à la courtine. Avant, bon, il y avait toujours eu des petites prises de bec, des petits dégâts, mais on arrivait à s'arranger, c'était des fois un peu long, mais on arrivait à s'arranger. Mais maintenant, c'est un peu la peine d'y penser. Alors, en gros, pour le tour par le camp, là, je reprends ce qu'avait dit Jean-Jacques. Là. Si on compte tout... Il n'y a pas que le carburant, hein, c'est l'usure d'un véhicule, c'est les pneus aussi. C'est en gros 1 000 euros à l'année, les comptes que j'avais fait. Alors sur un SMIC, vous voyez à peu près.
Moi, je me demandais qu'est-ce qui ferait que justement ça pourrait arriver, cette situation, que les routes ferment. Enfin, quel moyen de pression vous avez? Comment ça se passe au niveau des communes, au niveau de la concertation entre les maires? Enfin, voilà, est-ce que dans la balance, il y a du pour, du contre?
Ben, je sais pas, parce que là, on va voir... D'abord, ces routes-là, ils ne se sont pas pris tout à fait comme ça. Ces routes, elles sont départementales, elles appartiennent au département. Alors, ils ont commencé à les demander au département. Le président du Conseil général nous avait passé une copie de la demande. C'était une lettre qui était très polie. On veut les routes, point barre, même pas de formule de politesse, rien du tout. Ça a fortement déplu M. Lozac. Qui n'a pas laissé ses routes. Alors ils ont dit, puisque c'est comme ça, on va contourner un peu, on va poser la question autrement. Les routes ne nous intéressent plus. Par contre, elles seront plus couvertes quelques heures dans la semaine, quoi, en gros. Hein. Alors après, la Comcom, ben voilà, c'est ce qui a été déjà dit. La Comcom, il y a des communes qui ne sont pas concernées. Si on demande à Saint-Mer-la-Breuil ou à Saint-Martial... Alors, on en est là, il doit se réécrire une convention dans le premier semestre de l'année. Alors, on va voir ce qu'on va nous proposer. Mais moi, je vois pas pourquoi on peut en écrire tant qu'on veut des conventions. D'abord, nous, on n'est pas demandeurs déjà d'une part, et de l'autre, qu'on commence à respecter celle-là.
Je voudrais rajouter un petit mot aussi, c'est qu'on avait un regard un peu sur le camp, en traversant le camp. Parce qu'on craint, parce qu'ils avaient pensé déjà pour nous... pour faire de l'enfouissement de déchets nucléaires, Croc au Fer Noël. C'était une super zone où il n'y avait aucune faille, il n'y avait pas de problème d'eau, rien, et il n'y avait plus personne, d'ailleurs, presque, en les entendre. C'était vraiment l'endroit idéal, qu'on allait donner de l'argent aux communes. Et maintenant, ce qu'on craint, c'est justement, vu que les communes ne veulent pas lâcher prise pour faire ces enfouissements, que ça tombe sur une zone déjà expropriée, comme le camp, et qu'un jour, eh ben, ils font des trous, ça sera fermé, gardé tout autour, on ne verra pas ce qui s'y passera. Et sachant que c'est le château d'eau quand même, hein. On a déjà vu la grossière erreur qu'ils ont fait de traiter des zones de pare-feu avec du désherbant. Ils ont minimisé la chose, mais on sait que dans l'eau du barrage, il y a eu du désherbant, il y a du plomb, il y a différents produits qu'on ne veut pas chercher parce que là, on va lancer un gros problème, grosse problématique. C'est soit on ferme le camp, soit on ferme l'eau.
On avait discuté un peu avec eux, vous en êtes où en fait là-dessus?
Mais avec eux, vous avez bien vu les articles qu'il y a eu, on s'était alarmés pour rien, vous en faites pas mes enfants, il n'y a pas de problème, c'est des gens respectables qui sont compétents, vous savez, ils nous prennent pour des cons, ça on le sait bien, on nous prend pour des CM2 là.
Le fait de garder les routes ouvertes vous permet aussi...
C'est un droit de regard, cette zone, ils ne peuvent pas se l'approprier entièrement, c'est déjà des zones qui nous ont prises pour en faire une activité qui n'est pas noble pour moi. Donc, au moins, qu'il y ait au moins ce droit de regard, et le peu d'activité qu'il peut y en avoir, c'est les champignons, la chasse et le bois, au moins garder ses privilèges, voilà. Enfin, privilèges entre parenthèses, parce que le jeu, on ne veut pas changer. Je préférerais qu'il n'y ait pas de camp et qu'il n'y ait pas de champignons non plus, à la limite.
Oui, vous puissiez aussi voir s'il se passe des choses autour des captages.
Tout à fait. S'il y avait, les routes étaient fermées, on n'aurait pas vu qu'ils auraient désherbé au glyphosate, plus d'autres produits, là, des foliants, là. On l'aurait pas vu, ça. Donc, on n'aurait pas posé le cri d'alarme, vous voyez. Et là, s'ils ferment tout, c'est facile d'arriver la nuit avec des camions. On décharge. D'ailleurs, il y a eu des camions de terre qui sont venus du crash de Neuvik, un avion qui s'était crashé avec, soi-disant, bon, du kérosène, mais peut-être une ogive nucléaire, ou on ne sait pas trop. C'est arrivé dans les bâtiments du camp militaire. Et à un moment, la terre a disparu. Elle a passé où ? Dans les remblais en face, elle est où ? Vous voyez, on peut pas avoir confiance, parce que l'armée, on sait, c'est la muette, elle ferme sa gueule. Article 1, l'armée a toujours raison. Article 2, même si elle a tort, l'article 1 entre en vigueur. Et c'est tout à fait ça.
Comment dire, les pare-feux les pare-feux sur lesquels ils ont mis du désherbant, c'est à mourir de rire, parce que ça a fait des grandes herbes toutes sèches, et qui pouvaient prendre feu, c'était encore pire. C'est contre-productif. Faut voir, c'est pas un mètre carré, hein, c'est des milliers de mètres carrés. Hein. Et c'est des herbes toutes sèches, très hautes, et qui pouvaient prendre feu, et bon, voilà quoi.
Une question là-dessus, parce que c'est un sujet qu'on a un petit peu suivi à Télé 1000 Vaches, parce qu'on a fait en octobre dernier un magazine sur la question de l'eau potable, donc on s'était intéressé, même si c'est pas sorti dans le magazine, à ce qui s'est passé avec la zone par feu. Moi, j'avais retenu que finalement, c'était un peu sur le long terme qu'il allait falloir vérifier.
Ah ben ça, c'est clair.
Alors, on en est où maintenant ? Parce qu'en fait, ça, bon, c'est sorti de l'actualité. On n'en parle plus dans les journaux. J'ai l'impression de cette histoire. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a vraiment un suivi qui est en train d'être fait ? Enfin, est-ce qu'il y a des
échéances ? Moi, personnellement, j'habite pas là, donc je peux pas tellement en parler. Mais je peux vous dire que vu la superficie, à mon avis, les nappes phréatiques, ça m'étonnerait qu'elles s'en sortent indemnes. Hein.
Ouais, le problème de l'eau, nous, c'est tout par ruissellement, là. Donc ça veut dire que la Croix-Louis, ça a été depuis 1901 une zone de tir avec des obus chargés de plomb. Moi, gamin, avec Gérard, on peut dire, on allait chercher des plombs, on ramenait 10, 20, 30 kilos de plomb, ça veut dire qu'il y a des tonnes de plomb déversés à la Croix-Louis. Bassin versant du barrage, on sait qu'il y a un ruissellement, il y a du plomb. Il y a d'autres produits. Alors, moi, je ressens le problème, c'est qu'on a attaqué le problème de l'eau. Nous, en tant qu'utilisateurs, le problème, c'est qu'en face, il y a un fermier, SDEI, il y a le syndicat de la Roseille, et il y a 30 000 consommateurs derrière. Ça veut dire que si on posait un problème ici, Bessa, 30 000 personnes n'étaient plus alimentées en eau. Donc même les responsables civils de l'eau, je pense qu'ils ont fermé leur gueule, parce qu'ils avaient le gros problème, c'est comment faire autrement. Si on n'a plus les 1 500 000 mètres cubes d'eau là, du barrage, comment on va chercher de l'eau ailleurs pour alimenter tout, parce que on avait des communes qui étaient autonomes. Plein de communes autour étaient autonomes avec leurs sources personnelles. Et là, on a fait pression. Mais vous vous rendez compte, vous allez empoisonner les gens, vous ne traitez pas votre eau. C'est ce qu'on a fait la pression à tous les maires. Donnez la gestion de votre eau à SDEI, à la Lyonnaise des Eaux. Vous allez voir, avec Veolia, ça va être super, on va traiter. C'est un coût financier. On a fait peur aux gens. On n'a pas amélioré la qualité de l'eau. On a foutu du chlore, on l'a rendu infecte. Hein. Même si elle est consommable, elle est infecte. Et je pense que le problème, ça emmerde autant le camp et ça emmerde autant la SDEI et la Lyonnaise des Eaux et Veolia. Voilà le problème. Et nous, on est entre deux, on est utilisateurs. Et je pense qu'on a minimisé, on a fait des prélèvements à des endroits où il n'y avait pas de risque de trouver quelque chose. On n'a pas cherché à fond dans les analyses. Et on ne veut pas remuer la vase, c'est de quoi de le dire. Parce que je pense que dans le barrage, il y a pas mal de sédiments qui peuvent être très dangereux.
Apparemment, le traitement des pare-feux, là, je pense que ça sera repris dans le projet de convention. Il se referait mécaniquement. Après, ça, c'est une promesse verbale de la part de l'armée. Alors, ça, c'est encore à voir. Hein.
Alors, juste, ouais, les pare-feux, il y en a une zone où elle a été mise en herbe, elle est restée en herbe, elle est packagée actuellement et vous passez au broyeur. C'est super, il repousse de la bruyère, les vaches packagent, c'est naturel. On va foutre à chaque fois ou des trucs mécaniques, on retourne la terre, ou on fout du désherbant. On ne peut pas faire des choses qui soient durables. On parle du durable. Le durable, c'est les animaux qui pèsent depuis des milliers d'années. On sait que ça nettoie. Ça ne coûte rien, voire ça produit un peu. Les agriculteurs offraient un fermage, payaient un fermage pour utiliser. Alors que là, ça coûte les yeux de la tête, ça n'a pas le rendu. Ça, on dégrade les sols puisque les sols sont à nu. Donc là, il n'y a pas d'écologie. C'est marrant. Nous, on va nous emmerder en tant qu'agriculteurs. Moi, je n'ai pas le droit de laisser des bottes de foin à proximité du barrage. Je ne dois pas mettre un nourrisseur avec de l'aliment parce que c'est fermenté si, ça peut polluer l'eau. Par contre, là-haut, c'est une zone de non-droit. Il n'y a pas d'écologie possible. Là, c'est l'armée. Le problème, c'est que l'armée, c'est 1450 hectares de bassin versant dans le camp militaire pour le barrage, 50 en zone agricole. Et alors, à chaque fois, on montre que c'est l'agriculture de Bessa qui va polluer le barrage. Chaque fois, alors que vous pouvez aller chez moi, il y a un sac d'ammonitrate, on ne désherbe plus, il y a plus de, voilà, on fait de la cueillette, nous. Par contre, là-haut, il ne faut rien dire. C'est ça. Et je vous dis, le problème, c'est que maintenant, le problème, ça emmerde autant l'armée que ça emmerde la SDEI. Parce que on sait qu'il y a des produits dedans, mais on ne veut pas les chercher. Donc, à dire.
Oui, bon, mais il faut dire aussi qu'on risque rien de trouver dans l'eau. Hein. Pour la bonne raison, c'est que c'est le même organisme qui a donné l'autorisation de désherber, c'est le même organisme qui fait les prélèvements. Ah ben non, pour la boire, il faut s'accrocher, hein, parce que.
Même
alors.
Le Picard, on peut la boire.
Bien sûr, en mettant du chlore, bon, elle est consommable, mais elle est imbuvable.
Bon, alors, j'ai pas trop été d'accord sur le fait que l'eau est polluée après au traité. À la station de Magna, ils ont une filière complète de traitement, ce qu'on appelle de type A3, c'est-à-dire un traitement physico-chimique poussé. Donc, ils avaient déjà pensé à gérer au cas où s'il y avait des problèmes de pesticides. Donc, grâce au filtre charbon actif, qui permettent de capter tous les pesticides qui sont présents dans l'eau brute. Ce problème de pesticides dans le camp, bon. On a le fait qu'il y a un ruissellement, vu les bassins versants autour de la commune, et notamment sur le barrage de Bessa. Donc cette eau a peut-être présenté quelques pollutions, les paramètres de l'eau, surtout les pesticides, ils n'ont pas été mesurés et n'ont pas montré de résultats favorables. Je pense pas qu'il faut non plus s'inquiéter sur l'utilisation de l'eau au quotidien chez nous. Et puis le fait qu'il y ait du chlore sur le réseau, en eau potable, il y a une règle qu'il faut savoir, c'est qu'on met 0,3 mg par litre de chlore par kilomètre. Donc ceci permet aussi de désinfecter toutes les tuyauteries au cours du... aussi c'est un problème ici avec le chlore. Plus on est proche de la station, plus on sent le chlore. Et plus on est loin, on le sent moins. Mais ceci est primordial pour éviter toutes les maladies liées à l'eau. Voilà.
Moi, je voulais savoir si Marie-Rose voulait ajouter quelque chose. Parce que tu as commencé le magazine.
Et puis c'est tout. Je la trouve bonne.
Du vélo de Magna.
Oui. Je pense que c'est l'eau d'une source. Mais bon, il y a peut-être un mélange, je ne sais pas exactement. Mais moi, je bois l'eau du robinet, bon, c'est tout.
Et vous avez une opinion sur le camp militaire aussi ? Vous avez une opinion sur le camp militaire aussi ?
Oui, mais moi, comme je vous ai dit, je suis un peu plus éloignée, c'est bon, puis... Bien sûr, c'est beaucoup plus court de passer par la route qui mène directement à la courtine, ça c'est certain. Parce que ça m'arrive aussi que si quelqu'un m'amène, d'être obligé de prendre le périph', ça fait des kilomètres en plus, c'est sûr. Oui.
avez retrouvé la vie que vous connaissez à Bessa dans le magazine ou...
Ah oui, mais bien sûr, tout à fait, bien sûr. Oui, oui, c'est du réel.
Au niveau création de votre reportage, autre chose, je regarde Antenne 2 ou FR3 ou Télé 1000 Vaches, je pense que vous avez la qualité des reportages qui se fait. Et non, mais pourquoi pas faire un téléfilm, aller plus loin, avec un sujet local, et j'ai un bribe de scénario si ça vous intéresse.
C'est quoi votre idée Allez-y.
Non, c'était sur l'histoire du chou de Mania, tout simplement. Et il y a moyen de faire, je pense, une heure et demie de téléfilm avec ce qui se faisait, avec la notoriété, avec des anecdotes qui peuvent se remettre dedans et une histoire d'amour aussi qu'on peut englober.
Venez nous voir, on en discutera.
Non, mais ça pourrait, même pour vous, je pense. Bon, c'est vrai qu'il faut peut-être d'autres moyens, d'autres budgets, mais ça pourrait être sympa aussi de... Non ? Plutôt que de côté reportage, là, c'est carrément tourné...
Ce qu'il y a, c'est que la fiction, c'est quand même vraiment d'autres moyens. Mais
après, en tant
lourd.
Qu'artiste, je serais bénévole. Hein, mais ça pourrait essayer d'impliquer. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin ? Et justement, ce reportage, après, pourrait faire... ça peut être un court-métrage ou autre chose, et aller dans un salon, dans un... Je ne sais pas, moi...
S'il y a une équipe de personnes... assez motivé et actif pour faire une fiction, on peut s'y mettre. Hein. On peut accompagner le projet.
C'était une petite parenthèse et une petite. Pourquoi faire petit alors qu'on peut faire grand, c'est ça ?
Bon, merci à tous. Je pense qu'on va, s'il reste un peu de gâteau, on va le finir. But I can't forget your kisses. Say you come back to me.
L'émission touche à sa fin, il ne vous reste plus qu'à voir notre magazine. Je vous donne rendez-vous lors d'une de nos projections publiques. Alors il reste Flaya, le vendredi 27 février à 20h30 au Café de l'Espace. À Gensiou, le mardi 10 mars à 18h au Bar du Monument. À Bourganeuf, le vendredi 13 mars à 20h30 au Centre Alain Gould. Et à Gourdon-Murat, le samedi 14 mars à 15h au Foyer Intercommunal. Si vous ne pouvez pas vous rendre aux projections, pas d'excuses, vous pouvez soit vous rendre dans votre mairie pour emprunter le DVD, ou vous pouvez encore aller sur notre site internet www.télémillevaches.net. Je vous donne rendez-vous également début avril avec un magazine consacré à l'Espagne. Télé 1000 Vaches n'essaiera pas de parler comme une vache espagnole, mais nous vous proposons un volet historique. Bon nombre de réfugiés républicains espagnols ont rejoint notre région pour fuir le franquisme. Certains d'entre eux ont largement contribué à renforcer les lignes de résistance dans nos maquis. Il s'agira également d'habitants du plateau, comme Damien Magnaval, corrézien de Gourdon-Murat, qui s'engagea dans les brigades internationales pour combattre le fascisme. Je vous laisse en musique avec le jeu de mots musical de la semaine. Il s'agit du générique du Dauphin du magazine de Bessa, Portrait au bord du périph. Au revoir et à bientôt. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Mucho, que tengo miedo perderte y perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a ti.
Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de ti. Which means, dearest one, if you should leave me, each little dream would take wing and my life would be through. Hey, bésame, bésame, bésame mucho.